Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Chlamydia, herpès, syphilis, blénorragie, les IST, les infections sexuellement transmissibles, autrefois d'ailleurs appelées MST, sont nombreuses, diverses, de gravité variable. Un sujet pas toujours facile à aborder avec son médecin, souvent même d'ailleurs tellement difficile que les patients hésitent à consulter. Pourtant, des traitements existent. Il est important de voir un médecin le plus tôt possible, car la plupart de ces IST guérissent quand elles sont traitées à temps. Mais sans traitement, il existe à terme des risques, entre autres des risques de stérilité. Alors, quels sont les symptômes qui doivent alerter? Quels sont les traitements? Comment peut-on se protéger? Où en sont les recherches pour de nouveaux traitements? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le docteur Jean-Marc Bobot. Il est infectiologue, andrologue, directeur médical de l'Institut Fournier à Paris. Si vous avez envie de lui poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Henriette Mello, qui est dermatologue au Centre médical des roseaux à Douala, au Cameroun.
RFI.
Docteur Jean-Marc Bobot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Avant de parler des IST, un mot sur cet Institut Fournier, qui est un des seuls centres médicaux dans Paris qui réussit à survivre.
Oui, c'est un centre non seulement qui survit, mais qui fait des petits, puisque nous venons d'ouvrir un deuxième centre dans le 11e arrondissement, le premier étant le vaisseau amiral de l'Institut Fournier dans le 14e, qui est un centre de santé polyvalent, mais l'histoire de l'Institut Fournier est totalement liée à la prévention, au dépistage et à la prise en charge des infections sexuellement transmissibles depuis de très nombreuses années. Mais maintenant, nous avons ouvert un petit peu à des consultations de médecine générale, nous avons un centre de vaccination internationale, un centre de médecine des voyages. Donc, nous avons un centre qui fonctionne de mieux en mieux et de plus en plus.
C'était important de le préciser pour démarrer cette émission. Donc, quand même pas mal spécifié, vous l'avez dit, hein, médecine générale, mais aussi beaucoup IST. Quels sont les principales IST? Est-ce qu'on continue à dire IST, MST? On est tous un peu perdus, d'ailleurs.
Alors, on a remplacé le terme de MST, maladie sexuellement transmissible, par IST, pour bien insister sur le fait que beaucoup de ces maladies, malheureusement, ne donnent que très peu de symptômes, voire pas de symptômes du tout au début.
Donc, les gens n'ont pas l'impression d'être malades.
Voilà. Alors que maladie, ça veut dire qu'on a des symptômes. Ce qui doit inciter effectivement à prendre des précautions, à ne pas se fier à l'absence de symptômes pour dire qu'on est en bonne santé, et à faire des dépistages régulièrement quand on a pris des risques. Alors, le nombre de ces maladies est important, mais les plus connues, c'est les plus anciennes, entre guillemets, celles dont on parle le plus, c'est la syphilis, c'est la blénorragie, la gonococcie, avec des infections de découverte un petit peu plus récentes, comme les infections à chlamydia, comme l'herpès, comme les hépatites, et puis bien sûr, les infections à papillomavirus qui peuvent provoquer des lésions cancéreuses ou précancéreuses du col de l'utérus. Et enfin, le VIH, dont on sait très bien que la transmission sexuelle est le principal mode de transmission.
Je voulais bien, pendant cette émission, d'ailleurs, on va mettre de côté les hépatites et le sida sur lesquels on fait des émissions régulièrement, mais plutôt parler des autres que vous avez cités, hein, chlamydia, herpès, syphilis, blénorragie. Ces maladies, ces infections sexuellement transmissibles, sont-elles en augmentation, en réaugmentation?
Alors, l'OMS estime, malheureusement, les statistiques sont pas très récentes, ça remonte à 4 ou 5 ans, à 340 millions de cas par an, de nouveaux cas par an dans le monde, de maladies. Et là-dedans, on parle pas des maladies virales, c'est-à-dire qu'on va pas parler de l'herpès, on parle pas des hépatites ni du VIH. Donc, il s'agit simplement des blénorragies, des infections à chlamydia, etc. Donc, 340 millions de nouveaux cas par
tous
an
les ans.
Dans le monde.
Voilà. C'est énorme.
C'est énorme. Alors, depuis quelques années, on avait l'impression qu'avec l'épidémie du sida, les patients avaient un peu pris la mesure du risque et la prévention semblait efficace.
C'est-à-dire le port du préservatif, hein.
Voilà. Mm-hmm. Et malheureusement, depuis quelques années, les chiffres sont là pour nous démentir, c'est-à-dire qu'on a une augmentation régulière dans pratiquement tous les pays, une réémergence de maladies qu'on croyait non pas disparues, mais très très affaiblies, comme la syphilis, la blénorragie, les infections à chlamydia, etc.
On va revenir sur toutes ces maladies, surtout les risques. Les auditeurs, les auditrices sont très nombreux à appeler pour vous poser des questions. On a Edith qui nous appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Edith, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai laissé mon message hier sur le mail de Priorité Santé. Je disais en fait que avant-hier, j'avais une écho de routine à faire pour vérifier mes kystes. Et on s'est rendu compte que j'avais une infection. Mais bon, lorsque j'ai rencontré le gynéco, Julien, ça me paraissait bizarre parce que je ne manifestais pas de signes apparents. Il me dit, oui, c'est là le danger parce que les infections, généralement, c'est comme ça, surtout pour les femmes. en allant faire une infection, mais on n'a pas de signe extérieur. Et puis bon, il m'a dit, bon, on a laissé, il a prescrit les médicaments, mais bon, j'aimerais un peu attirer l'attention de nos jeunes soeurs africaines qui n'ont pas encore inculqué ça dans leur pratique, c'est-à-dire voir régulièrement le gynéco.
Oui, absolument. Pour ça, c'est important que vous le disiez, d'aller voir régulièrement le gynéco. Et dites, est-ce qu'on vous a dit quelle infection c'était?
Oui, c'est ça le problème. Parce qu'en Afrique, vu le niveau de vie des Africains, on ne pousse pas plus loin les examens. Et c'est limite à te dire que tu as une infection, on te fait une combinaison de traitements préventifs, on te prend des médicaments. Parce que le médecin dit, vu le train de vie des Africains, on ne peut pas pousser plus loin les examens. Il se limite à me dire qu'il y a une infection et là, il me donne une liste d'ordonnance. J'achète les médicaments et je prends. Après, je fais une échographie pour voir si c'est passé ou pas.
Et qu'est-ce que vous avez pris comme médicament?
Bon, devant moi, j'ai augmenté. Il m'a prescrit Flagyl et puis, je crois, il y a un autre médicament, Maxilaz.
Et vous aviez une question à poser au docteur Bobot?
Oui. En fait, j'aimerais savoir si ces infections à la langue pouvaient conduire à la stérilité. Ça, c'est la première question. Et puis, savoir, lorsqu'on a une infection, qu'on fait le traitement, est-ce qu'on a la possibilité encore de refaire encore la même infection, de refaire encore des infections?
Oui, est-ce qu'il y a des risques de rechute de questions vraiment très importantes? Alors, docteur Bobot.
Oui, alors Edith, ce que vous dites est très intéressant et c'est exactement ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que malheureusement, beaucoup de ces infections passent totalement inaperçues au départ. Et même quand on est au stade de complication, les infections qu'on peut trouver au niveau de l'échographie qu'on vous a faite, c'est ce qu'on appelle une salpingite, c'est-à-dire une infection des organes génitaux hauts, c'est-à-dire les trompes qui sont très très importantes pour assurer une fertilité correcte chez la femme. Et donc à la suite d'infections, bah, ces trompes peuvent se boucher, il peut y avoir des petits abcès à l'intérieur des trompes et ça empêche effectivement une fécondité normale. C'est vrai que les traitements peuvent être tout à fait efficaces, peuvent réduire de manière considérable les risques de stérilité, mais on peut absolument pas dire qu'à la longue, même avec un traitement antibiotique, on élimine totalement les risques de stérilité. Alors votre exemple est parfaitement clair, c'est-à-dire que quand on n'a pas de symptômes, on a toujours tendance à penser qu'on est en bonne santé et qu'il n'y a aucun problème. Eh bien non, il faut aller régulièrement consulter, il faut éventuellement faire des échographies et parfois même avec de simples examens de laboratoire, une prise de sang par exemple peut parfaitement vérifier si oui ou non on est porteur d'une infection ou pas.
Et régulièrement faire des examens, aller consulter un gynécologue, c'est quoi? Tous les ans, voir un gynéco?
Tout dépend un peu de sa vie sexuelle, c'est-à-dire que si on a un partenaire stable et que lui est stable, on n'est jamais sûr, hein, bien sûr, mais donc on peut y aller, on y va une fois par an ou une fois tous les deux ans, c'est largement suffisant. Si on a une vie sexuelle un tout petit peu plus agitée, si on a plusieurs partenaires ou si on a l'impression que éventuellement le partenaire est pas si fidèle que ça, eh bien il faut pas hésiter à aller plus souvent chez le médecin pour faire le dépistage. Alors Edith avait posé la question de savoir quel type de maladie ça pouvait être. En l'absence d'examen de laboratoire, c'est bien difficile, mais il faut savoir que ces infections qui atteignent les trompes, c'est bien souvent dû soit au gonocoque, c'est le germe qui est responsable de la blénorragie, soit au chlamydia. Et le chlamydia est encore plus sournois que le gonocoque, dans la mesure où près de la moitié des femmes qui ont des infections des trompes à chlamydia n'ont aucun symptôme.
Et donc, souvent, on s'en aperçoit justement simplement quand elles ont des problèmes de fertilité, quand elles cherchent à attendre un enfant.
Exactement, vous avez parfaitement raison. C'est souvent quand elles veulent faire des enfants qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème. Et là, on découvre qu'il y a eu une infection.
D'où l'intérêt de la prise en charge. Et une autre question que posait Edith qui me paraissait aussi très importante, la question de la rechute. Est-ce qu'il y a des risques de rechute? J'imagine qu'il faut aussi que le partenaire soit traité.
C'est exactement ça. Donc il faut pas confondre rechute et recontamination. Quand une infection est correctement traitée, il y a très peu de risques de rechute, sauf si la patiente rattrape à nouveau la maladie, c'est-à-dire si le partenaire n'a pas été traité en même temps. Et le problème, c'est que les femmes comprennent bien généralement l'utilité d'aller voir leur gynécologue. Les hommes sont
un peu moins, c'est ça que vous voulez nous dire.
Beaucoup plus peureux et dès qu'il s'agit de leur organe génital, ils se retranchent derrière la notion « je ne ressens rien, donc j'ai rien, j'ai pas besoin de voir le médecin, j'ai pas besoin de me traiter ». Eh bien, il faut que les mentalités changent et se dire que les hommes sont responsables aussi des infections qu'ils peuvent transmettre à leur partenaire et de la fécondité de leur partenaire.
Docteur Bobot, vous êtes en train de nous dire que quand une femme vient vous voir, vous avez du mal à ce que son compagnon vienne aussi, c'est ça ?
C'est pas gagné d'avance.
C'est pas gagné d'avance.
Il faut savoir parlementer. Et souvent, les hommes ne viennent pas parce qu'ils ont peur. Ils sont tout à fait persuadés qu'on va leur faire des investigations particulièrement douloureuses, alors qu'en fait, maintenant, les examens consistent en un simple examen d'urine et une prise de sang. On ne fait plus ces tortures que l'on faisait il y a quelques années de faire des prélèvements dans le canal urétral, etc.
Qui, on imagine, peuvent faire mal. Edith, est-ce qu'on a bien répondu à vos questions ? Est-ce que vous avez une autre question à poser ?
Oh non, ça va.
Est-ce que votre compagnon, j'avais envie de vous poser la question, a aussi été traité ?
Oui, c'est ça la difficulté. Comme si j'allais en parler. Généralement, c'est le problème avec qu'on n'arrive pas à les convaincre. Et souvent, je suis obligée de faire le traitement. Là, il est en voyage et là, je suis obligée de faire le traitement. Bon, je ne sais pas si à son retour, on pourra le voir le gynéco.
Alors, je pense que ce n'est pas si. Il faut absolument, c'est ça, docteur Bobot ?
C'est indispensable parce que vous avez toutes les chances de pouvoir guérir de cette infection. Mais si votre partenaire n'est pas traité, vous allez rattraper cette infection. Et là, une deuxième infection, c'est beaucoup plus difficile à gérer et ça expose à davantage de complications.
Donc, il faut réussir à le convaincre, Edith. On espère qu'il nous écoute.
Okay,
merci, bon courage à vous. On a Karine qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Karine, bonjour.
Oui, bonjour Claire.
On vous écoute, Karine.
En fait, moi, j'ai une préoccupation, c'est à propos des IST. Régulièrement, je suis des traitements, mais sauf qu'après une ou deux semaines, c'est les mêmes symptômes qui reviennent. Sans avoir eu à avoir à faire des rapports ou le fait est que je prenne ma toilette intime, après, le lendemain, c'est les impressions qui reviennent. Une fois, je me dis soit c'est l'eau, soit c'est peut-être les sous-vêtements, soit c'est le traitement qui n'est pas bon.
Mais vous quels sont vos symptômes?
Souvent, j'ai tendance à avoir... j'ai l'impression que le vagin, il y a plus de liquide.
Oui. Est-ce que ce liquide sent mauvais?
Non, pas vraiment.
Alors, vous savez, Karine, il y a une chose qui est importante, c'est que il faut faire très attention à l'hygiène. Et il suffit pas simplement de dire que les gens qui sont malades, ce sont des gens qui n'ont pas d'hygiène. Malheureusement, les gens qui ont trop d'hygiène, ce sont aussi des gens qui peuvent se rendre malades. Et on voit beaucoup, beaucoup de comportements de femmes qui sont absolument persuadées qu'en se lavant plusieurs fois par jour, en faisant des injections dans le vagin, en faisant même, en mettant parfois des herbes ou des décoctions dans le vagin pour rassécher le vagin, elles vont résoudre le problème. Non seulement elles vont pas le résoudre, mais ça va l'aggraver. C'est-à-dire que l'excès d'hygiène peut diminuer les défenses naturelles et favoriser le développement d'un certain microbe, même si vous n'avez pas de rapport sexuel. Faut pas oublier que le vagin, c'est un organe habité, hein, au sens microbien du terme. C'est-à-dire que dans un vagin de femme, il y a entre 100 millions et 1 milliard de germes par millilitre de sécrétion vaginale, et c'est normal. Et donc, quand on déséquilibre cette flore...
Est habituée à se défendre naturellement,
bien
en fait,
sûr,
au départ.
Absolument. Et elle défend vis-à-vis non seulement des microbes qui peuvent être dangereux dans le vagin, mais même des microbes qui viennent de l'extérieur. Eh bien, donc, ces femmes qui ont tendance à trop se laver, à utiliser des produits antiseptiques ou à faire des douches vaginales, ce sont des femmes qui affaiblissent leur défense, ce qui augmente le risque d'infection. Et même, on a pu démontrer que ça augmentait le risque de contracter le virus du sida.
Donc, pas de toilette intime, je dirais, à l'intérieur du vagin, pas tous ces produits qui sont en vente, mais qu'on trouve même en vente en pharmacie, hein, d'ailleurs.
Bien sûr.
C'est
bien
à déconseiller.
Voilà, c'est formellement déconseillé. Un vagin, ça se respecte. Il faut beaucoup de douceur dans un monde de brutes, parce que les microbes sont des gens qui peuvent être très agressifs. Donc, il faut respecter les défenses de son vagin. Et pour ça, il faut utiliser des produits doux et surtout pas de douche, parce que sinon, c'est pas étonnant que vous retrouviez des pertes 2-3 jours après.
Merci beaucoup Karine pour cette question parce qu'elle est revenue plusieurs fois. On sait que c'est une question très importante.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des infections sexuellement transmissibles avec le docteur Bobot qui est directeur médical de l'Institut Fournier à Paris. On a Moussa qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Moussa, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute Moussa, parlez bien près du téléphone pour qu'on vous entende.
En fait, je vous remercie de me permettre de participer à votre émission. J'ai eu à souffrir d'une IST lorsque j'étais adolescent, qui a laissé des séquelles parce que je souffre, je traîne une épidémie depuis lors. Mais le problème est que depuis cette maladie, j'arrive pas à avoir un enfant. Et puis après un rapport sexuel, je me sens malade. Je me sens très très fatigué, j'ai des douleurs au niveau des pieds, je sens une chaleur au niveau de la pente des pieds et de la paume des mains.
Docteur Bobot, on a parlé de la question de la stérilité chez les femmes là en début d'émission. Effectivement, les IST peuvent aussi provoquer des problèmes de stérilité chez l'homme.
Bien sûr, les IST, certaines IST, comme on revient toujours sur les mêmes, c'est-à-dire la blénorragie et les infections à chlamydia, sont des infections qui, quand elles ne sont pas traitées à temps, peuvent diffuser dans les testicules, au niveau des petits organes qui se trouvent au-dessus des testicules, qui s'appellent les épididymes. Généralement, le garçon le sent. En général, l'homme sent une douleur, sent quelque chose qui gêne ou il y a un testicule qui gonfle et à ce moment-là, il va consulter de bonne heure. Si c'est pas le cas, malheureusement, cette infection peut atteindre la structure même du testicule ou boucher l'épididyme qui est simplement le canal, qui sont les canaux évacuateurs des spermatozoïdes, ce qui fait que l'homme continue à avoir des spermatozoïdes, mais les spermatozoïdes ne peuvent plus sortir. Et donc là, il y a effectivement des traitements et parfois même, on est obligé de faire un petit acte chirurgical. Donc, il faut absolument que Moussa soit examiné sérieusement, qu'on regarde s'il n'y a pas d'anomalie au niveau de ses testicules et peut-être d'envisager un traitement qui, de toute façon, sera très long.
Ce que vous êtes en train de dire, docteur Bobot, c'est qu'on l'entend bien, beaucoup de ces infections sexuellement transmissibles sont silencieuses pendant de nombreuses années, de nombreux mois, et c'est plus silencieux chez la femme que chez l'homme, vous êtes en train de dire ça ?
Oui, c'est plus silencieux chez la femme que chez l'homme. En revanche, comme on le disait tout à l'heure, l'homme a tendance à retarder beaucoup la consultation parce qu'il a peur de la consultation.
Il faut qu'il ait vraiment très mal pour aller consulter.
Voilà, absolument. Et puis beaucoup d'hommes nous disent bah moi je viens tardivement parce que je pensais que ça allait passer tout seul. Non, ça passera jamais tout seul. Le jour où il y a plus de symptômes, c'est là où c'est inquiétant, c'est parce que l'infection a diffusé plus haut et les complications commencent à arriver.
Donc un message à faire passer, c'est consulter le plus tôt possible.
Absolument, ça fait pas mal, on peut faire des examens très simple, le traitement sera très court et là on a toutes les chances de guérison sans séquelles.
Pas de honte à ça, c'est ça, on est souvent gêné vis-à-vis du médecin.
Ce n'est pas une maladie honteuse, la fonction sexuelle est une fonction naturelle, au même titre que manger, respirer, boire, donc faire l'amour, et ça comporte un certain nombre de risques. Et ben, quand on mange quelque chose qui n'est pas frais, on attrape aussi des problèmes. Et ben, en sexualité, c'est la même chose et c'est pas honteux.
Et il faut aller consulter. Merci beaucoup Moussa pour votre question. On a Abdoulaye qui nous appelle de Bamako au Mali. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute.
Voilà, bonjour. Je salue tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Et Claire, en fait, moi, il me semble que j'ai toujours eu les infections. Parce que moi, j'ai toujours traité, mais je vois que ça est toujours là. Et au début, il y avait des sécrétions blanchâtres, surtout avant quand j'urine. Et j'ai traité, toujours traité. Il me semble aussi qu'à chaque fois que je rencontre une fille de ma zone, je sens qu'elle est toujours infectée. Alors je me demande même, est-ce que tout le monde n'a pas ces infections-là ? Ça, c'est ma première question.
Votre première question. Et quand vous dites que vous traitez avec quoi ?
Au début, on me donnait des antibiotiques tels que Cipro, Cipro a une combinaison en un mot.
Donc vous étiez allé consulter ?
Oui, j'ai été pour consulter et quand je me traite, bon, après, je sens toujours la présence de cette infection-là.
Et vous aviez une deuxième question, je crois, à poser.
Oui, maintenant, la deuxième question, c'est ici en Afrique, particulièrement au Mali, avec la polygamie, est-ce que je me demande s'il n'y a pas de proposition pour qu'on puisse lutter contre ces infections-là ? Parce que si j'ai écouté le docteur avec cette transmission sexuelle, or chez nous, un homme avec 3-4 femmes.
Il y a des risques de contamination aussi sur les autres femmes. Abdoulaye, on se retrouve dans 3 minutes, hein, juste après les informations, toujours pour parler de ces infections sexuellement transmissibles. Et le docteur Bobot, justement, répondra à vos questions. On se retrouve après les infos.